Bonsoir. Toute la semaine, nous serons dans l'église de Castanet-Tolosan, dans le diocèse de Toulouse, où du 2 au 4 juillet se déroulait la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet. Le thème retenu cette année, Vivre ensemble, quel engagement pour aujourd'hui, serait développé par 6 intervenants successifs. Le premier d'entre eux, René Vallette, universitaire à Lyon, président pendant 6 ans du CCFD et membre associé de la commission Justice et Paix France, s'interroger sur les conditions du vivre ensemble de manière harmonieuse. Dans un monde déchiré, faire vivre l'utopie d'une citoyenneté planétaire, c'était là le titre de sa conférence que nous écoutons sans plus tarder.
Bonjour à toutes et à tous. Faire vivre l'utopie d'une citoyenneté planétaire, quelques mots pour présenter le thème. Dans un monde déchiré, faire vivre l'utopie d'une société planétaire. Un monde déchiré, je crois que ce n'est pas la peine de trop m'attarder sur cette réalité. Juste avant de quitter la maison où on m'avait hébergé hier soir et cette nuit, j'entendais qu'il y avait eu un attentat suivi d'échanges de coups de feu, même d'armes lourdes en Égypte, avec des dizaines de morts, c'est-à-dire un de plus. Faire vivre l'utopie, ça fait référence à Thomas More, qui a écrit en 1516 un livre dans lequel il imaginait la cité idéale, qui n'existe pas, donc une utopie. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de faire vivre une utopie. Laquelle utopie ? D'une citoyenneté planétaire. Ça peut paraître curieux de parler de citoyenneté planétaire, puisque aussi bien le Larousse que le Petit Robert définit la citoyenneté comme étant l'ensemble des droits et des devoirs de personnes vivant dans un état donné. Donc on associe au mot citoyenneté un lieu précis, l'état dans lequel on vit. Et quand on parle de citoyenneté planétaire, ça veut donc dire que ce lieu, c'est la planète. La maison commune, pour prendre la très belle expression du pape François dans cette encyclique dont je ne saurais jamais assez vous recommander la lecture. Oui, dans un monde déchiré, il nous faut faire vivre, bâtir l'utopie d'une citoyenneté planétaire. Mon exposé va suivre ce plan. Un monde déchiré, puis une citoyenneté planétaire, et pour terminer, faire vivre cette utopie. Un monde déchiré, j'énumère simplement quelques lieux de conflit. En Afrique, l'Afrique des Grands Lacs, depuis des années, affrontements sanglants, surtout dans la région du Nord Kivu et du Sud Kivu en RDC, mais aussi autour. Toujours en Afrique, l'Érythrée. Ce n'est pas étonnant si parmi les demandeurs d'asile qui arrivent aujourd'hui en France, il y a autant d'Érythréens et qui, à peine indépendants, est déchiré par une guerre interne extrêmement meurtrière. Là aussi, ça explique l'arrivée de réfugiés ou de demandeurs d'asile érythréens. Si je remonte un peu, dans la limite sud du Sahara, vous avez tout ce que provoque le courant islamiste de conflit, rendu d'autant plus sanglant que la fin du régime Kadhafi en Libye a fait disparaître un État. Il n'y a plus d'État. Et comme il n'y a plus d'État, les armes en quantité extrêmement importante, armes légères et armes lourdes, dont disposait le pays, se sont réparties dans la nature, alimentent les différentes factions qui se combattent, et ce qui explique notamment qu'on a en fait deux lieux de gouvernement aujourd'hui en Libye, Benghazi et Tripoli. Et ces armes passent en dessous du Sahara et alimentent les différents mouvements djihadistes qu'on peut voir dans le Sahel, dont on entend parler régulièrement, Tchad. Vous savez, il y a eu quelques dizaines de morts au Tchad il y a 3-4 jours. Les difficultés permanentes au Mali, etc., etc. Si on se déplace un petit peu vers l'Est, inutile que je vous parle de la Syrie. L'évêque maronite de Damas est un de mes anciens étudiants et nous correspondons régulièrement. Je dirais que chaque fois que j'ouvre l'ordinateur pour lire ses messages, je me demande quelle nouvelle tragique ou quel degré dans la tragédie je vais lire. Et chaque fois, je me dis, quand il reste 15 jours sans m'envoyer de nouvelles, est-ce qu'il est encore vivant ? Et cette tragédie syrienne explique non seulement qu'il y a des Syriens qui demandent l'asile en France, et il y en a, mais aussi qu'il y en a des centaines de milliers qui sont allés dans le pays voisin du Liban, au point de menacer d'ailleurs la sécurité interne du pays, ou qui vont en Jordanie. Et c'est vrai que les Jordaniens d'origine, les Bédouins, se trouvent parfois laminés, disent-ils, ou craignent d'être laminés, entre déjà les Palestiniens qui étaient venus nombreux et ceux qui arrivent maintenant pour se mettre à l'abri. On ne peut pas oublier non plus l'attentat de Boston aux États-Unis il y a pas si longtemps que ça, le World Trade Center en 2011, et on ne peut pas oublier chez nous, et notamment tout près de la bonne ville de Lyon, ce qui s'est passé de tragique à Saint-Quentin-Fallavier il y a quelques jours. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que le même jour, on avait à Lyon ce mini-drame, mini parce qu'il ne concernait qu'une personne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas horrible, mais au même moment, on apprenait ce qui s'était passé à Sousse, en Tunisie, on apprenait ce qui était passé dans la mosquée chiite de Koweït, et deux, trois jours après, ce qui se passait au Tchad. Donc je crois qu'il est utile que j'insiste davantage. On est dans un monde qui est vraiment déchiré par des conflits armés extrêmement graves. Je me suis interrogé sur cette parole du pape François. Ce pape bien-aimé exagère. On n'est quand même pas au niveau d'une guerre mondiale. Et j'étais d'autant plus étonné par cette expression que je venais de visiter le mémorial de Caen, qui retrace l'avant Deuxième Guerre mondiale, la guerre mondiale, après Deuxième Guerre mondiale. Je me disais, pape François, vous exagérez un peu, on n'en est quand même pas là. Ce qui a fait dire cela au pape, je crois, enfin je ne veux pas faire interpréter ses idées, mais c'est que ces conflits, tels qu'on les voit actuellement, Boko Haram au Cameroun, au Nigeria surtout, un peu au Nord-Cameroun, Daesh un peu partout, les attentats qui nous menacent chez nous, veulent dire que les conflits ne sont pas localisés en un endroit. Et dans plusieurs journaux, je lisais ces jours le nombre de nationalités qui étaient présentes dans les différents courants islamistes en guerre. Dans une source, c'était 90. Il y aurait 90 personnes, 90 nationalités différentes qui participeraient au conflit avec les mouvements islamistes violents. Et pour d'autres, c'était jusqu'à 100. On n'est pas dans une guerre mondiale, mais on a une guerre qui touche des ressortissants de 90 ou 100 pays et qui a des conséquences multiples un peu partout dans le monde. Donc cette expression qui fait choc, guerre mondiale par procuration, par morceau, elle n'est peut-être pas si éloignée que cela. Je voudrais insister un peu dans cette deuxième partie de ma première partie, sur les conséquences de la mondialisation telle qu'elle s'épanouit partout dans le monde depuis quelques années. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour une mondialisation solidaire ». J'ai vu qu'il vous était proposé. J'ai écrit ce livre et j'ai donné ce titre parce que je pense que la mondialisation telle qu'elle s'épanouit actuellement, elle est à l'origine de nombreux de nos problèmes. Je ne nie pas les effets bénéfiques de la mondialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de personnes qui vivent avec moins de 1,25 $ de revenus par jour, un peu plus d'un euro, a diminué de 1 milliard, nombre de personnes. Il y a 1 milliard de personnes en moins dans le monde qui vivent avec moins de 1,25 $ de revenus par jour, 1 milliard de moins qu'il y a 20 ans. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim de manière extrêmement prégnante est aujourd'hui de 795 millions. Les chiffres sont d'il y a 8 jours. Il y a 20 ans, c'était de plus d'un milliard. alors que la population de ce qu'on appelait les tiers-mondes a considérablement augmenté en 20 ans, le nombre de personnes qui souffrent de la faim d'une manière extrêmement forte a diminué. Certains l'expliquent notamment par les bienfaits de la mondialisation dans un pays comme la Chine. 1,4 milliard d'habitants, le nombre de personnes qui souffrent de la faim a beaucoup diminué. Et certains disent, oui, c'est grâce à la mondialisation. Donc je n'oublie pas ces aspects-là. Mais la raison pour laquelle je propose une autre mondialisation, c'est parce que cette mondialisation actuelle, elle accentue les écarts entre les pays gagnants et les pays perdants. Et tant dans les pays gagnants que dans les pays perdants, elle accentue les écarts entre une partie de la population qui est gagnante et une partie qui est perdante. Et dans tous les cas, ceux qui sont perdants, ce sont les plus fragiles. La mondialisation accentue les inégalités, accentue terriblement les inégalités entre ceux qui sont les bénéficiaires et ceux qui sont les victimes. Entre pays bénéficiaires et pays victimes, entre parties de population bénéficiaires et parties de population victimes. Ce sont les plus faibles qui sont les perdants. Et à partir de ça, je pense qu'on aboutit à une quadruple impasse. Et c'est le troisième point de ma première partie. D'abord, on est dans une impasse éthique. Je crois que vous serez toutes et tous d'accord pour dire qu'on reconnaît la qualité d'une société à l'attention qu'elle porte à ses éléments les plus fragiles. Dans une famille, quel est l'enfant qui va mobiliser l'attention des parents ? C'est bien, c'est pas celui pour lequel tout va bien. C'est celui malade ou handicapé, celui qui a un échec scolaire, celui ou celle qui a été prise par la dépendance de l'alcool ou de la drogue, celle ou celui qui est au chômage, celle ou celui qui ne trouve pas le stage dont il a besoin pour continuer son parcours scolaire. Celui ou celle qui connaît une déception amoureuse, c'est bien celle-ci, cette personne, qui va mobiliser l'attention des parents, non pas parce qu'il l'aime davantage, mais parce que l'aimant, comme tous les autres, les parents savent qu'en ce moment-là, c'est cette personne qui aura besoin de plus d'attention. Ce qui est vrai au niveau d'une famille, on peut dire que c'est vrai au niveau d'une société. Je pense que notre pays a grandi en humanité quand a été voté. Merci à Td Carmonde, merci Secours catholique, merci Secours populaire, merci Emmaüs, lorsqu'a été votée la loi instituant la couverture médicale universelle. Une loi qui dit que tout être humain, parce qu'il est être humain, a le droit d'être soigné, d'avoir accès aux soins de santé, quelle que soit sa situation juridique. Et quand je lis que 48% des médecins spécialistes ne veulent pas recevoir des malades bénéficiant de la CMU, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la mesure où le serment d'Hippocrate impose à chaque médecin de soigner toute personne malade. Alors évidemment, je n'ai pas trouvé de médecin spécialiste qui refusait frontalement. Mais quand on dit à sa secrétaire, donnez pas de rendez-vous avant 3 mois ou 6 mois, on sait très bien ce que ça veut dire. Ou lorsque un dentiste dit, je ne veux pas soigner des gens qui ont l'IVH ou qui ont le sida, il ne dit pas ça. Mais il dit, je n'ai pas de place disponible avant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si je vous le dis, c'est que j'ai fait des interviews pour vérifier ça. Eh bien, il y aura l'évangile sur la tête aussi, quand les plus petits sont ceux qui sont oubliés. Je vous rappelle, Luc chapitre 7, verset 18-24, ou Matthieu 25, le jugement dernier. L'évangile est sur la tête quand les plus faibles sont ceux qui sont les perdants. Également, je dirais que c'est une impasse politique. En effet, ce qui me frappe, c'est que la mondialisation propose comme modèle de la réussite humaine, elle propose l'acquisition du maximum de biens. Plus tu as des biens, plus ta vie est réussie. Le pape François va jusqu'à dire que le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits, les personnes finissent par être subjuguées dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles. Chapitre 6, paragraphe 203. Alors, ce qui me frappe, c'est que ce qui est proposé comme modèle partout dans le monde, partout dans le monde. J'ai eu la chance d'avoir de faire des missions de plus ou moins longue durée dans 64 pays. Il faut dire que dans les 64 pays, pour la majorité des gens, le critère de la réussite de leur vie, c'était d'accéder au mode de vie et au niveau de vie des populations privilégiées de nos pays. Alors, dans la mesure où on ne peut accéder à ce qui est proposé comme un modèle, et ce modèle est proposé partout, dans la mesure où on ne peut pas accéder à ce modèle, ça crée des frustrations. Alors, comment s'expriment ces frustrations ? Eh bien, dans le quartier de Lyon où j'habite, ça se traduit notamment chez des jeunes qui pratiquent ce qu'on appelle des incivilités, c'est-à-dire qui vont casser les abribus ou qui vont taguer les rames du métro ou qui vont lacérer les sièges des bus. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Ça se traduit aussi pour certains par la fuite dans l'alcool ou dans la drogue. Devant même la maison où j'habite, on voit de temps en temps, ça va venir parce qu'il fait chaud, des jeunes adolescents qui vont sniffer dans un sac plastique de la vapeur d'éther ou de la vapeur de produits désinfectants, que sais-je, et qui se rendent malades, on le voit bien. Ça se traduit aussi pour certains par la violence. Je n'ai pas de raison de respecter les règles d'une société qui me propose un modèle et un modèle qui est inaccessible pour moi. Ça se peut se traduire aussi par une lecture fondamentaliste de sa religion qui sert de catalyseur en quelque sorte à sa réaction de déception de ne pas pouvoir accéder à ce qui est proposé comme modèle. Et dans l'est de Lyon, il y a des jeunes qui partent au djihad, qui partent au djihad. Une anecdote, si vous voulez, pour finir sur ce point-là. J'ai fait une interview d'une jeune fille, d'une jeune femme, dont je ne dirai pas la conclusion et dont j'ai masqué le nom. Elle m'a dit: René, j'ai quitté l'école il y a 5 ans, elle a maintenant 22 ans. L'interview était l'année dernière. Je suis sorti sans qualification, aucune. J'ai un nom maghrébin qui n'est pas le premier qui intéresse l'employeur. Je ne peux pas faire envoyer le courrier de réponse à une candidature que je peux envoyer chez moi parce que l'adresse fait peur. Elle le fait domicilier ailleurs. Mon papa est au chômage de longue durée depuis 4 ans. Ma maman est analphabète en langue française. Comment veux-tu que je trouve du travail? Ça fait 5 ans que j'ai quitté l'école, j'ai trouvé que 2 ou 3 petits emplois, dont 2 de courte durée et en plus non déclarés. Et cette fille ajoutait: alors tu sais, moi j'ai envie d'être sapée comme mes copines, j'ai envie de m'éclater au moins de temps en temps comme mes copines, qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu proposes? C'était une fille qui se prostituait occasionnellement, et au même moment, son frère allait dans les boîtes de nuit branchées du nord de la vallée de la Saône, du centre de Lyon, et son frère disait: moi, quand je rentre à 6 heures du matin dans la nuit de samedi au dimanche, je rapporte plus d'argent à la maison que mon père avec son RSA depuis 3 ans. Je crois que l'écart qu'il y a entre ce qui est proposé comme modèle par la mondialisation et ce qui est accessible à certains, notamment aux plus fragiles, crée des frustrations qui menacent, je crois, les possibilités de vivre ensemble d'une manière harmonieuse. Autrement dit, penser à une autre mondialisation est pas seulement une question d'éthique, qui pour nous chrétiens repose sur notre foi en Jésus-Christ et sur ce que nous apprend la parole et la vie de Jésus-Christ, mais c'est aussi peut-être bien un acte de réalisme politique. J'étais frappé en lisant le livre de Thomas Piketty qui insiste sur une brique de 970 pages, entre parenthèses, et qui est lue et relue. J'insiste pas sur ce qu'il dit, parce qu'on peut le considérer peut-être comme un économiste très à gauche et qui est par conséquent une lecture qui est biaisée, en tout cas, qui est teintée par sa propre philosophie personnelle. Mais ce qui m'a frappé, c'est le dernier rapport que les économistes du Fonds monétaire international viennent de publier. Le Fonds monétaire international, c'est pas un repère de gauchistes, comme vous le savez. Alors, non pas le Fonds comme entité, mais le groupe économiste du FMI vient de publier un rapport dans lequel ils disent quels sont les dangers à la fois économiques, sociaux et politiques de cette croissance des inégalités. Oui, je crois qu'il nous faut penser une autre manière de vivre la mondialisation et par conséquent une autre manière d'envisager une citoyenneté planétaire. Également, un risque écologique, une impasse écologique. Bon, je n'insiste pas. La planète est capable de nourrir sans problème les 7 milliards 200 millions d'habitants qui vivent actuellement, les 9 milliards 200 300 millions qui seront sur Terre en 2050, mais elle n'est sûrement pas en mesure de fournir à ces 9 milliards 200 millions d'habitants, les 7 milliards 200 millions d'aujourd'hui, le mode de vie qui est proposé comme étant le symbole de la réussite. Enfin, impasse anthropologique. Ce que nous propose la mondialisation actuelle, c'est cette idée que plus on a, mieux on est. Autrement dit, l'être humain se définirait non pas par ce qu'il est, mais par son avoir. Tout au moins, c'est son avoir qui définirait son être. Or, je suis géographe et économiste, je ne suis pas psychologue ni psychosociologue, mais j'en ai parlé avec des psychologues de toute philosophie, et ils m'ont dit, bien sûr, c'est une impasse. Si on réduit l'homme à sa capacité d'avoir, on nie toute une partie de ce qu'est la personne humaine. Et je vous renvoie, si vous le voulez bien, au schéma 13 du Concile Vatican II, l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, dans lequel ce très beau texte du Concile rappelle que l'homme est à la fois un être unique, et qu'il faut penser son développement intégral, comme le disait Paul VI et comme le rappelle le pape François, mais aussi que c'est un être social, et par conséquent c'est un être qui se réalise, qui s'épanouit, qui devient pleinement homme par la qualité des relations sociales dont il bénéficie. Or, si la mondialisation crée des relations sociales difficiles, à vivre ensemble difficiles, on est aussi dans une impasse anthropologique. Impasse éthique, impasse politique, impasse écologique, impasse anthropologique. Il nous faut donc penser, je pense, une autre mondialisation et par le fait même une autre citoyenneté. Je passe à la deuxième partie. Une citoyenneté planétaire est-elle possible? Je crois qu'il est inutile que j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus petit. Le rapport espace-temps a considérablement diminué. On ne mesure pas les distances par les kilomètres qui séparent les points concernés, mais par le temps que l'on passe pour aller d'un point à un autre. Notre planète est de plus en plus étroite, et par le fait même, nous sommes de plus en plus conscients de notre interdépendance. L'interdépendance, je crois, est une réalité que personne ne conteste. En dire d'autres termes, un événement aujourd'hui qui se passe dans un endroit du monde a des répercussions partout dans le monde. On en a un exemple, deux exemples simplement. Par exemple, c'est ce qui se passe dans le climat. Une augmentation de la température du globe de 2 degrés d'ici la fin du siècle aurait des conséquences limitées. Une augmentation de 3 ou 4 degrés aurait des conséquences dramatiques. Or, chacun d'entre nous participons à cette réalité. Est-ce qu'on limite la croissance de la température du globe en dessous de 2 degrés ou est-ce qu'on participe à une augmentation qui mettrait en péril la survie de personnes par centaines de millions partout dans le monde? Et le pape François, dans son encyclique, rappelle que cette augmentation de la température du globe au-delà de degrés frapperait surtout les populations les plus fragiles, dans tout le contraire de ce que nous dit l'Évangile. Un deuxième point, c'est le conflit syrien. Ce qui se passe actuellement en Syrie a des répercussions dans le monde entier. pas seulement dans les pays voisins, mais dans le monde entier, avec un risque notamment de terrorisme lié à ce conflit un peu partout dans le monde. Le pape parle de maison commune, et il a dit à plusieurs reprises, il nous faut passer de la mondialisation de l'indifférence à la mondialisation de la solidarité. Il l'a dit, je l'ai entendu, en tout cas lu, deux fois au moins, mais c'est le fil conducteur de toute son encyclique, mais déjà de son exhortation apostolique précédente. Une fois, c'était lorsque il a fait un voyage pastoral en Corée du Sud, et au cours de ce voyage pastoral, il avait rencontré les hommes d'État, les gouvernants des pays, et c'est à eux qu'il leur a dit « Vous avez le devoir de développer une mondialisation de la solidarité. » Une mondialisation de la solidarité. Et dans d'autres cas, et notamment en s'adressant aux diplomates en poste à Rome, il leur disait « Vous avez le devoir que dans chacun de vos pays, vous étiez à ce que le monde passe d'une mondialisation de l'indifférence à une mondialisation de la solidarité. On est dans le même registre. » Entre parenthèses, François n'a pas le monopole de cette expression. Si vous avez en mémoire l'encyclique de Jean-Paul II, Sollecitudo Rei Socialis, dans un des chapitres, je crois que c'est le chapitre 14 ou le chapitre 15, dans un des chapitres, il emploie 14 fois le mot solidarité. 14 fois le mot solidarité, dans un seul chapitre. Et pratiquement, le pape Jean-Paul II prenait à son compte tout ce que l'humanisme laïque, c'est-à-dire sans référence à la transcendance, avait donné comme contenu au terme solidarité. Et le pape Jean-Paul II ajoutait, mais pour les chrétiens, cette solidarité, elle va jusqu'au pardon et à la réconciliation, et elle doit être sans limite, sans excuse. Personne, aucun habitant de la planète doit être à l'écart de cette solidarité telle que je la propose. Une petite anecdote, si vous voulez bien. Après que l'encyclique ait été publiée, le Secours catholique et le CCFD de Chalon-sur-Saône m'avaient demandé de donner une conférence de présentation de l'encyclique. Il y avait peut-être bien 250 personnes, dues, je pense, à la popularité, au charisme du pape. Et à la fin, il y a une dame qui vient me voir, une dame d'une quarantaine d'années, et qui me dit « Monsieur, j'ai bien aimé votre conférence. » Mais comme elle avait un visage qui était très tendu, je me dis « Tiens, il y a quelque chose qui va suivre. » Elle dit « Mais par contre, je ne comprends pas que vous ayez parlé de solidarité, alors que c'est une expression qui est employée par des gens qui n'aiment pas l'Église et qui ont parfois combattu l'Église. » Alors je répondu « Madame, est-ce que vous pensez que Jean-Paul II est un bon catholique ?» Elle m'a dit « Oui, bien sûr. » Je vous rappelle que dans cette encyclique-là que je viens de vous présenter, le mot solidarité apparaît 14 fois dans un seul chapitre et plusieurs fois dans d'autres chapitres. Et par ailleurs, il a été très proche d'un mouvement anticommuniste polonais qui s'appelait Solidarność. Alors chacun sait, même si on n'a pas fait de polonais, Solidarność, ça veut dire solidarité. Simplement, c'est vrai que le mot solidarité, il est employé parfois par des milieux laïcs, même laïcards, c'est-à-dire anticléricaux, par réaction contre le mot charité, alors qu'il n'y a pas de mot plus beau que le mot charité. Charité, caritas, c'est-à-dire amour. Mais parfois, la charité était perçue comme étant une attitude un peu paternaliste, condescendance, assistentielle. Comme disait mon papa, qui était très loin de l'Église, il m'a dit « Parfois, les chrétiens se donnent bonne conscience en faisant une œuvre de charité, mais ils ne s'intéressent pas sur les raisons qui font que besoin d'avoir cet acte. » Et là, je vous rappelle simplement ce que saint Ambroise disait au IVe siècle, et c'est repris par Paul VI dans l'encyclique « Populum Progressio ». Saint Ambroise dit « Écoutez bien, lorsque tu fais le monde à un pauvre, lorsque tu fais un don au Secours catholique, au CCFD, à Télécarmonte, à Peuple solidaire, peu importe, Action contre la faim, lorsque tu fais le monde à un pauvre, tu ne fais que lui rendre ce à quoi il a droit, car voici que ce qui était à l'origine destiné à tous, tu te l'es approprié pour toi seul. Autrement dit, l'acte du don, ce n'est pas un acte qui donne bonne conscience, c'est un acte qui indique « j'ai pris conscience de quelque chose qui ne va pas et dans ma vie, je vais faire ce que je peux faire avec mes talents, mes limites, avec ce que je suis, talent au sens de l'Évangile ou au sens humain, pour que demain, il n'y ait plus besoin que des gens me tendent la main. » Et Saint Vincent de Paul, lui, il allait jusqu'à dire aux femmes de son entourage qui allaient porter la nourriture aux populations en difficulté de Paris, il leur disait, lorsque vous faites l'aumône à un pauvre, il faut vous faire pardonner le pain que vous leur donnez. Et vous devez vous interroger sur votre responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire un don alors que d'autres ne peuvent pas. Alors si on prend la solidarité comme cela, effectivement, elle prend tout ce que l'humanisme laïque a pu donner comme expression, comme contenu à ce mot, mais elle ajoute qu'elle est sans limite, sans limite, sans limite, sans exclusive, personne n'est exclu, et elle va jusqu'au pardon et à la réconciliation. Le pardon qui est le don par excellence. Don par excellence. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in Veritate, lui, il écrit « La société toujours plus globalisée rapproche les hommes, mais ne les rend pas frères. La société toujours plus globalisée rapproche les hommes, mais elle ne les rend pas frères. Rapproche les hommes, mais ne les rend pas frères. » Rapproche, elle n'a jamais été aussi proche, mais elle ne les rend pas frères. D'où cette invitation régulièrement qui nous est faite et reprise par le pape Benoît XVI de vivre cette fraternité. Une parenthèse, fraternité, j'ai été frappé d'abord de constater en préparant cette rencontre que dans la devise de la République française, lorsqu'elle a été imaginée, au moment de la Révolution 1789, il n'y avait que deux mots, liberté et égalité. Liberté et égalité, on n'est pas plus loin. Et c'est en 1848, au moment de l'avènement de la Deuxième République, courte, elle n'a pas duré très longtemps, mais elle était, je crois, une très belle République, qu'a été ajouté le mot fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et réfléchissant, je me suis dit que l'égalité, elle est impensable s'il n'y a pas aussi fraternité. Impensable s'il n'y a pas fraternité. Et la vraie liberté n'est pas non plus pensable s'il n'y a pas de fraternité. Petite expérience personnelle, encore, je pense que vous me le pardonnerez. Il y a quelques années, le diocèse de Grenoble m'avait demandé d'animer une récollection pour les maîtres d'enseignement catholique qu'ils voulaient sur l'enseignement social de l'Église, que le pape Jean-Paul II appelait doctrine sociale de l'Église, que moi j'appelle enseignement social, et que le frère dominicain Puel, qui va venir ici, appelle lui pensée sociale chrétienne. Mais ça désigne la même chose. Et je disais à ces maîtres qui étaient là, ils étaient une centaine à peu près, lorsque dans une classe, vous avez un élève qui est mal aimé chez lui, et ça arrive. Au pire, sont les enfants battus, ça arrive, et dans tous les milieux sociaux. En moindre, c'est lorsque des enfants sont oubliés par les parents, entre parenthèses oubliés, parce que le papa et la maman, très pris par leur travail, n'ont pas pu se libérer pour 16h30 pour récupérer l'enfant. J'ai une amie qui est institutrice dans le quartier de Gerland à Lyon, qui est un quartier populaire, mais qui est en train de se transformer rapidement. Et il me disait que les maîtres et maîtresses de l'école se relayaient chaque jour pour rester après 5 heures, parce qu'il y a toujours quelques élèves qui sont, entre parenthèses, oubliés. Pas oubliés, mais que les parents n'ont pas eu le temps ou pris le temps de venir les chercher à temps. Lorsqu'il y avait un élève en plus qui n'est pas doué pour les études, deuxième pauvreté, quand en plus c'est un garçon, une fille qui fait ses devoirs dans un... ou qui prolonge l'école dans un contexte difficile. Je pense à ces pièces dans lesquelles des enfants de demandeurs d'asile, par exemple, côtoient, font leurs devoirs dans une pièce, dans une chambre d'hôtel, où il y a 3 ou 4 personnes qui sont là. Ils vont à l'école, prolonger l'école, c'est pas facile que ça. Ou alors on fait le devoir sur ses genoux dans les escaliers de la maison dans laquelle on est. quand en plus il n'y a pas la moindre continuité entre le monde de l'école et le monde de la maison, parce qu'à la maison on ne parle pas la même langue, parce qu'à la maison on n'a pas l'habitude de théoriser, de conceptualiser, parce qu'il n'y a pas une bonne bibliothèque, parce qu'on n'a pas de réseau de relations qui multiplient les possibilités d'enrichissement culturel, encore une pauvreté. Quand en plus on a un garçon, une fille qui est maladroit au foot ou au basket ou à la danse ou qui a un corps disgracieux, cet enfant, cet élève cumule tant de difficultés que s'il n'y a pas de mobilisation de la communauté éducative, jamais cet enfant aura son compte de vie, comme aurait chanté le père Duval autrefois. Là. Par contre, s'il y a une mobilisation de la communauté éducative, s'il y a attention aux plus petits, aux plus fragiles, s'il y a fraternité, alors peut-être que ces enfants vont avoir leur compte de vie. Et je disais à ces bêtes qui étaient là, si vous prenez comme critère de réussite de votre école catholique universelle, si vous prenez comme instrument de vérification, la réussite au bac, c'est bien. La réussite au brevet des collèges, c'est bien. La réussite un BTS, c'est bien. Mais si vous ne prenez pas aussi en considération comment la communauté s'est mobilisée pour faire en sorte que ceux qui cumulent les handicaps réussissent, eh bien, vous n'êtes pas vraiment catholique, c'est-à-dire attentif, universel, à la fraternité. Et dans mes fonctions de vice-recteur de la cathédrale de Lyon, j'avais notamment comme tâche de veiller à la qualité de la formation humaine qui était donnée dans les écoles d'ingénieurs, qui avaient des liens plus ou moins importants avec la cathédrale. J'ai été frappé par ce que me disait le directeur de l'INSA de Lyon à l'époque, qui était un protestant, même président des églises protestantes de la région lyonnaise. Il disait, moi quand j'embauche un professeur, je mets toujours comme critère d'embauche, non seulement est-ce qu'il sera un bon transmetteur, mais comment, dans son enseignement, il va avoir le souci des élèves les plus fragiles. Ce que cet excellent directeur d'école appelait les mal dégourdis, ceux qui avaient réussi leurs études, mais qui avaient peut-être loupé leur vie, parce qu'ils oubliaient que réussir sa vie, c'est pas forcément avoir une bonne qualification professionnelle. La fraternité, c'est donc, dans l'humanisme laïque, ce que on porte comme attention à ceux qui sont les plus fragiles. Et dans l'humanisme chrétien, eh bien, ma foi, c'est ce que dit l'Évangile. Je vous rappelle simplement Luc 7, 18, 24. Jean le baptiseur était en prison. Ses amis viennent le voir et lui donnent des nouvelles. Ils lui disent qu'il y a quelqu'un qui fait des choses extraordinaires et il dit, nous sommes de plus en plus nombreux, nous demandent est-ce que cet homme est le Messie qu'on attend. Et Jean le baptiseur leur dit, eh bien, écoutez, c'est pas si loin que ça, allez le rencontrer, dites-lui que vous venez de la part du Baptiste pour lui poser la question, est-ce que tu es le Messie qu'on attend? Et vous savez la suite. Ils ont envoyé deux gens, vous rencontrez cet homme qui était Jésus, lui dit, est-ce que tu es le Messie qu'on attend? Et Jésus dit aux envoyés de Jean, allez dire aux baptiseurs ce que vous voyez et entendez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, les sourds entendent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les signes des temps, comme disait le Concile, et comme l'a repris, avait dit Jean 23, comme l'a dit le Concile, les signes des temps, les signes que le Christ est présent dans le monde, et à l'œuvre dans le monde, c'est ceux qui étaient marginalisés, laissés de côté, parce que malades, parce qu'impurs, parce que condamnés à mendier, retrouvent leur totale dignité et sont réinsérés. Voilà le signe pour un chrétien, la fraternité. C'est aussi Matthieu 25, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais affamé, vous m'avez nourri. Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça? Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et pendant longtemps, j'ai dit que Dieu s'identifiait aux malades, à l'étranger, aux prisonniers, comme les jeunes rebeux, les jeunes arabes de mon quartier s'identifient au footballeur Benzema ou à Zidane, peu importe. Non, non, la théologienne m'a dit un jour, René, c'est pas ça. Dieu, il ne s'identifie pas à, il est l'affamé, il est le prisonnier, il est le rejeté, il est le mal, il est. Donc si tu ne le fais pas pour lui, tu ne peux pas dire que tu aimes ton Dieu. Ah, c'est une invitation très, très pressante, très peignante, mais ô combien riche d'humanité. solidarité, fraternité, charité. La charité passe d'abord par la justice. Benoît XVI, dans une des encycliques, je crois que c'est dans Deus Caritas Est, Benoît XVI dit que la justice est d'abord le pilier de la charité. Nul ne peut parler de charité s'il ne parle de justice. Mais la charité, ça va au-delà de la justice. C'est au-delà. L'amour va au-delà de la justice, mais il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de justice. La charité, c'est l'attention à chacune des personnes, c'est l'attention aux situations que vivent ces personnes, et c'est l'attention aux structures qui sont à l'origine d'éventuelles situations de détresse. Ce que Jean-Paul II a osé appeler des structures de péché, des mécanismes pervers. J'avais une nuit pour présenter l'encyclique pour les éditions du Centurion de Bayard, et quand je suis tombé sur ce passage de l'encyclique, structure de péché, mécanisme pervers, j'avoue que j'étais complètement désorienté, je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai réveillé un ami théologien dans la nuit, il dit « explique-moi ce que ça veut dire ». Il dit « non, c'est trop rien, je n'avais jamais entendu cette expression ». Mais avec le recul, ça veut dire que lorsqu'il y a des situations socio-économiques telles que des personnes ont des conditions de vie qui leur fait déraper, ces personnes sont peut-être responsables, mais il y a structure de péché aussi, puis ce sont ces mécanismes qui sont peut-être à l'origine de ces comportements. Charité, c'est agir de manière fraternelle auprès des personnes, être attentif aux situations qu'elles vivent et aussi aux situations, aux lois, aux mécanismes globaux qui provoquent situations. Comme je suis pas en retard, je me permets de donner un dernier exemple personnel. Il y a quelques années, j'avais été sollicité pour être le modérateur du chapitre d'une congrégation religieuse féminine. Et dans le lieu où il y avait ce chapitre, à côté, il y avait un EHPAD. Et dans cet EHPAD, il y avait des religieuses de cette congrégation. Et la sœur qui était la supérieure de la petite communauté qui était là m'a dit « René, ça serait sympathique si tu allais faire un tour à l'EHPAD, parce qu'il y a des sœurs qui sont là et beaucoup te connaissent puisque tu as accompagné la congrégation, la province pendant 6 ans. Ça serait bien d'y aller, je dis, bien sûr, avec plaisir. » Et j'ai vu la sœur qui s'appelait Marie-Claire qui est partie avec un paquet de Kleenex. Et chaque fois qu'elle voyait une personne, religieuse ou non, il n'y avait pas que des religieuses qui étaient là, qui avait de la sueur, ou des gouttes de sang, ou de la chandelle, ou des larmes, eh bien, elle essuyait leur visage et leur faisait une caresse. Et on voyait le visage qui changeait. Et je dis à Marie-Pierre, à partir de maintenant, je vais t'appeler Véronique. Je te rappelle quelque chose. La station du chemin de croix, Véronique et Sylvie de Jésus. C'est Christ en agonie qui était là. Mais en même temps, j'ai dit, mais c'est bien ce que tu fais, mais est-ce qu'il y a assez de personnel dans l'établissement pour que le personnel ait le temps de perdre du temps à faire ça? Il me dit, c'est juste. On a des prix de journée qui sont sans cesse, qui nous rendent sans cesse en difficulté. Et les personnels ont de moins en moins le temps de faire ça. On n'est plus dans l'attention à la personne, on est à qu'est-ce qui se passe dans cet EHPAD et quelles sont les raisons qui font que c'est cela. Est-ce que dans le budget de la commune, dans le budget de la région, dans le budget de la France, dans le budget de l'Europe, on a ce souci-là de ceux qui sont les plus fragiles, par exemple les malades de la dernière page de leur vie? On voit bien que la charité, c'est la justice, mais c'est aussi l'attention à la personne, l'attention aux situations. Et j'arrive au troisième point. Il reste combien de temps? Une utopie à faire vivre. L'utopie à faire vivre. L'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas. Mais c'est un lieu qui est à construire. Dans le plan, j'avais annoncé que l'utopie avait été, cette cité idéale avait été imaginée par Thomas More, Saint Thomas More, puisqu'il était canonisé il y a quelques dizaines d'années, et celui qui avait refusé d'entériner le divorce d'Henri VIII et qui, à cause de ça, avait perdu sa place de responsable politique de haut vol, puis avait été mis en prison, finalement exécuté. Marx avait condamné l'utopisme comme manquant d'approche scientifique. Donc je passe, et aujourd'hui on parle à nouveau d'utopie. Et j'ai bien aimé un évêque que j'ai eu la chance de connaître, peut-être toi aussi, il était au Brésil, t'es pas au Pérou, c'est Elder Camara, qui a dit l'utopie partagée, elle ressort d'histoire. L'utopie partagée, elle ressort d'histoire. Et même Elder Camara disait, si je rêve tout seul, ce n'est encore qu'un rêve, mais quand on rêve à plusieurs, c'est déjà un début de réalité. Quand on rêve à plusieurs, c'est déjà un début de réalité. Alors je crois que cette citoyenneté planétaire, l'idée qu'on a des devoirs et des droits, pas seulement vis-à-vis des gens de son pays, mais vis-à-vis de l'humanité tout entière, je crois que c'est une utopie qu'il nous faut construire. Et face à cette situation qu'on voit, il y a trois attitudes possibles. La première, c'est « je suis découragé, il n'y a rien à faire ». Vous avez peut-être rencontré dans votre vie, vous faites peut-être partie des gens qui sont découragés. Non, ça va trop mal, il y a trop de saleté dans le monde. Je suis découragé, j'arrête tout. Deuxième attitude, c'est l'attitude que j'appelle la doctrine du canot de sauvetage. Le bateau coule, le monde va mal, mais moi, j'ai de l'argent, j'ai une bonne situation, j'ai des diplômes, j'ai des relations, je m'en tirerai toujours. Que les autres se débrouillent. Incompatible avec l'Évangile. Il y aurait donc comme troisième attitude, eh bien, faire vivre cette utopie, être des acteurs de solidarité. Je crois que c'est ce à quoi nous sommes invités. Et je termine en deux points. Le premier, c'est une phrase d'un philosophe marxiste italien que j'aime bien, même si je ne suis pas marxiste, vous l'avez deviné, il s'appelait Antonio Gramsci, et il disait « Il faut marier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. » Il faut marier le pessimisme de l'intelligence, l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire, si on regarde le monde tel qu'il est, lucidement, on ne peut pas être optimiste. Pessimisme de l'intelligence. Mais si on décide d'agir pour que ça change, c'est l'optimisme de la volonté. Oui, je crois qu'il nous faut marier le pessimisme de l'intelligence, accepter de voir que le monde ne va pas bien, mais ne pas se résigner à ce qu'il en soit ainsi, ne pas se décourager, agir chacun avec ce qu'il est, avec ses moyens, c'est l'optimisme de la volonté. Mais pour nous chrétiens, nous avons aussi la vertu de théologale d'espérance. Je dois vous dire que c'est une vertu dont j'ai découvert la richesse il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 15-20 ans. En effet, si nous croyons que Dieu est amour, sans limite, si nous croyons que Dieu est vie sans limite, il est ressuscité. La vie de Dieu fait homme Christ, elle ne s'arrête pas au soir du vendredi, c'est le matin de Pâques. Il est ressuscité. Et sa propre résurrection est le gage de notre propre résurrection, comme on le dit souvent dans la célébration des funérailles. Si nous pensons que Dieu est vie sans limite, que le terme d'histoire, ce n'est pas la mort, mais la vie, que ce n'est pas la haine, mais l'amour, si nous avons cette foi-là, à ce moment, nous pouvons dire que le terme de l'histoire, c'est le royaume, c'est l'espérance. Mais à moins d'être complètement inconscient, ou excusez-moi le terme, à moins d'être des faux jetons, je ne vois pas comment on peut parler d'espérance que nous puissions, dans notre foi, à des personnes qui sont affamées, humiliées, marginalisées, si avec eux, nous ne construisons pas l'espoir. C'est-à-dire si avec nous, nous ne vivons pas la charité. Notre vocation de baptiser, c'est d'être des porteurs d'espérance, que nous puisions notre foi, mais pour faire vivre cette espérance, il faut faire vivre la charité, et participer à cette construction d'un monde dans lequel nous envisageons la citoyenneté comme étant planétaire, et pour cela, un monde dans lequel nous sommes attentifs à celles et ceux qui sont les plus fragiles. Je vous remercie de votre écoute.
Nous venons d'écouter René Valette, universitaire à Lyon, président pendant 6 ans du CCFD et membre associé de la commission Justice et Paix France, qui intervenait le 2 juillet dernier dans l'église de Castanet-Tolosan, diocèse de Toulouse, où se déroulait la 8e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet.